Donc effectivement, dans ce rapport à la Bible, se pose cette question du rapport au miracle, et peut-être qu'il faut le préciser. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait là une certaine variété, même au sein du protestantisme, entre ceux qui ont plutôt le tempérament de croire au miracle tout exactement comme c'est écrit, et ceux qui prennent plus de distance par rapport à ceci. Ce qui est heureux, c'est que je crois qu'aujourd'hui, cette querelle est dépassée, et qu'en effet, aujourd'hui, la question en termes de théologie dans le protestantisme ne se pose plus de savoir est-ce qu'on croit vraiment que Jésus a ou non marché sur l'eau, ou est-ce qu'il a vraiment ou non guéri l'aveugle et comment il s'y est pris, mais est plutôt au niveau de la signification que cela peut avoir pour nous aujourd'hui et maintenant. Et que par conséquent, que vous croyez que Jésus ait marché sur l'eau ou que vous n'y croyez pas, ça ne change rien sur le sens que doit avoir le texte pour nous aujourd'hui. Alors qu'est-ce que le texte peut avoir à nous dire aujourd'hui à ce sujet? Eh bien, dans tous les cas, comme nous ne croyons pas en général que si un jour nous sommes dans le Titanic en train de couler, il suffira de prier Dieu pour qu'il nous fasse marcher sur l'eau et que nous évitions une mort par la noyade, c'est que nous croyons que l'aide de Dieu qui nous est proposée aujourd'hui, elle est d'un autre domaine. Et que par conséquent, ce texte, qu'il ait été une fois de plus historique ou non, est une forme de parabole de l'aide que Dieu peut nous donner aujourd'hui. Alors à partir de là, il faut décoder et se dire, oui, c'est vrai, la mer représente l'épreuve, représente le mal, et donc qu'est-ce que Dieu peut faire lorsque je suis effectivement en train de me noyer, en train de me perdre dans un événement, dans quelque chose, où je me dis là, je coule, eh bien Dieu peut m'aider à marcher par-dessus, et à marcher sur l'eau sans me noyer. Et ça devient beaucoup plus intéressant. Et vous voyez que l'on croit ou non à l'historicité du miracle, la signification pour aujourd'hui reste dans tous les cas valable. Et c'est celle-là que nous prêcherons du haut de la chair, et nous ne faisons plus, je dirais, de cette querelle entre les libéraux et les orthodoxes, un sujet même de prédication. Quant à la naissance de Jésus, c'est pareil, je vous l'ai dit, certains croient à la naissance virginale, d'autres n'y croient pas, mais néanmoins, personne ne va considérer que cette idée soit une idée qui n'ait aucun sens. Cette idée a un sens, et le sens, c'est de dire que comment est-ce que le Christ peut naître? Sous-entendu, comment est-ce qu'il peut naître dans nos vies, dans nos cœurs? Comment est-ce que je peux découvrir cette présence du Christ dans ma vie? Eh bien, le Christ ne peut apparaître quelque part, dans une existence ou dans le monde, que lorsqu'une réalité humaine se fait féconder par Dieu. Mais cette fécondation, une fois de plus, elle n'est pas spermatologique, ou je ne sais pas comment on dit, c'est une fécondation spirituelle. Et donc aujourd'hui, oui, je crois que Dieu doit féconder l'existence, et que, de même que la Vierge Marie, est l'image de tout chrétien, elle est l'image de l'Église, elle est l'image de la communauté, elle est l'image de chaque fidèle. Donc la Vierge Marie, c'est moi, c'est vous. Eh bien moi, aujourd'hui, comme Marie, je dois me laisser féconder par Dieu pour que dans ma vie puisse naître quelque chose qui est de l'ordre de l'amour, de la beauté, de la lumière, du pardon, du service, du don de soi. Et c'est en ça que je crois. Et vous voyez que le but, c'est justement de déplacer la question vers des questions peut-être plus intéressantes que de se bagarrer sur le sens premier du texte dans bien des cas. Alors je crois que c'est là, peut-être effectivement, je crois, l'intérêt de cette lecture de la Bible qui, une fois de plus, se fait à la fois dans la recherche personnelle, dans la liberté de l'interpréter, mais aussi dans le plus grand sérieux par rapport au texte. Alors maintenant, ça rejoint encore une autre question qui est donnée, c'est que, alors comment peuvent cohabiter ensemble des gens qui ont une conception si différente, finalement, sur bien des points? Eh bien, ça n'est pas un problème pour le protestantisme, parce que le protestantisme n'a jamais considéré que l'unité soit une valeur première. Et la diversité n'a jamais été une difficulté pour les protestants. Donc, qu'il y ait différentes églises protestantes n'est pas du tout un scandale pour nous. Non, il y a une diversité d'églises protestantes parce qu'il y a une diversité d'individus. Et qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père, et que par conséquent, si certains aiment à prier Dieu en chantant Alléluia, en levant les bras, en criant, en hurlant, et si d'autres, comme nous, préférons prier Dieu dans une certaine austérité, dans le calme, dans la tranquillité, dans la pudeur et le dépouillement, après tout, y a-t-il un vrai problème? Et si certains aiment, justement, dans une liturgie, le fait qu'il n'y ait pas trop de gestes, pas trop de choses à voir, mais qu'on soit bien concentré sur le contenu, sur la parole, et si d'autres considèrent que les protestants, ça ne leur convient pas parce qu'ils ont besoin d'une liturgie qui fasse bouger, qui mette face au merveilleux, qui fasse participer avec le corps, avec tous les sens, eh bien, très bien. Certains sont très heureux dans des liturgies orthodoxes grecques, d'autres préfèrent la sobriété des liturgies réformées. Où est le problème? Eh bien, pour un protestant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Cette diversité n'est pas du tout un scandale. Elle n'est simplement que le fait qu'il y ait différentes personnes. Et l'important, ce n'est pas d'être orthodoxe, d'être catholique, d'être arménien, d'être protestant, d'être catholique ou je ne sais quoi. L'important, c'est de trouver une communauté de frères et de sœurs avec lesquels on puisse partager sa foi et avec laquelle on puisse la vivre. Et du coup, ça fait aussi, ça donne aussi une réponse, je dirais, au problème de l'écuménisme. C'est que dans l'écuménisme, les protestants en général ne désirent pas du tout qu'on puisse arriver un jour à une seule église, avec une seule doctrine, un seul chef, une seule pratique, une seule liturgie, une seule hiérarchie humaine. Quel intérêt? Je dirais, l'unité des chrétiens ne réside pas dans l'uniformité des chrétiens, des liturgies, des comportements, des croyances. Quand deux frères sont très unis, c'est qu'ils s'aiment entre eux. Ça ne veut pas dire qu'ils font le même métier et qu'ils partent en vacances au même endroit et qu'ils pratiquent la même religion, en un sens. Deux frères sont unis quand ils s'aiment et quand ils se respectent les uns et les autres. Et c'est pour ça que dans l'écuménisme, je crois que l'important n'est pas de croire que ce serait très bien s'il y avait un jour une seule église, mais l'important c'est que tous les chrétiens se respectent entre eux et puissent vivre comme des frères et que chacun puisse dire à l'autre, « Eh bien écoute mon frère, oui tu pries pas tout à fait de la même manière que moi, mais tu es mon frère et je t'aime et ensemble nous pouvons témoigner, ensemble peut-être nous pouvons faire des grandes choses. » C'est donc dans le respect et dans la fraternité des uns avec les autres que nous devons avancer, et évidemment dans le fait d'abandonner toute idée qui heureusement aujourd'hui s'abandonne, qu'il y aurait d'un côté les bons, de l'autre côté les mauvais, d'un côté ceux qui ont raison, de l'autre côté ceux qui ont tort, etc. Non, je crois que les choses ne se font pas comme ça, et qu'aujourd'hui l'appartenance à une église ne doit pas être une affaire d'État, ça ne doit pas être quelque chose qui fait que l'on renoncerait alors à toute la culture de sa famille parce que toute ma famille est de telle religion et que de telle confession et qu'aujourd'hui je vais au temple d'à côté. Non, il faut aller là où on se sent bien. Et puis après, l'appartenance à une confession ou à une autre, très honnêtement, je crois que c'est une question fort secondaire. Il y a d'ailleurs une chose très essentielle dans la pensée réformée qui est l'idée de l'Église invisible et le fait que nous croyons que finalement les contours de l'Église du Christ ne sont pas les contours de nos institutions. Ils sont inconnus. Et donc on ne sait pas qui est croyant, qui est un chrétien, je ne sais pas. Je peux dire, par exemple, si quelqu'un qui ne va jamais au culte me dit « Monsieur le pasteur, je ne suis pas un bon pratiquant », je peux lui dire « Ça, c'est vrai ». Mais je ne peux pas dire si vous êtes un mauvais croyant, ni un bon chrétien. Vous êtes peut-être un mauvais pratiquant. Si jamais pratiquant veut dire... une question qui nous est posée là, si pratiquant cela veut dire aller au culte régulièrement, payer une cotisation à l'église tous les ans et envoyer ses enfants au catéchisme. Mais ça c'est de l'ordre de la pratique et ce n'est pas de l'ordre de l'essentiel, même si je crois que c'est important, bien sûr. Donc voilà l'église invisible du Christ, les contours de l'église, Dieu reconnaîtra les siens, qui est fidèle, qui ne l'est pas. Sans doute que dans mon église à moi, il y a des gens qui sont très fidèles et d'autres qui ne mériteraient pas tout à fait d'être appelés chrétiens. Et dans l'église du voisin, c'est la même chose. Et heureusement que ce n'est pas à nous de dire qui est chrétien et qui ne l'est pas.